Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Lecture en liberté, Denis Flageul.
Bonsoir. Nous continuons donc ensemble dans nos lectures en liberté le roman de Alice Zeniter, L'art de perdre. Tu bois trop, dit Claude, en vendant à Ali une bouteille d'anisette. Je sais. C'est surtout qu'il boit seul. Plus personne ne vient à l'association depuis la mort d'Akli. Mohand et Gelid ont annoncé qu'ils renonçaient immédiatement à leur pension. Gelid parce qu'il avait peur, Mohand parce que depuis le premier tract, il en avait envie. Les autres continuent probablement de l'apercevoir, simplement, ils ne viennent plus s'asseoir ici. C'est trop compromettant. Conformément aux promesses du capitaine, des militaires patrouillent régulièrement dans la rue devant la porte qu'Ali ferme sur sa solitude et ses verres d'anisette. Depuis son dernier passage à la caserne, les Français ont pris deux des fils Amrouche, celui qui collectait et un de ses jeunes frères. Ali s'efforce de ne pas y penser. Ce sont eux qui ont commencé. Il n'y peut rien. Il fallait qu'ils se protègent. Il remplit de nouveau son verre, puis repose la bouteille sur une pile instable de brochures. Il regarde son reflet dans la fenêtre, dont il n'a pas ouvert les volets. Ses yeux ont jauni. Ils sont devenus vitreux. Les militaires qui montent la garde dans le voisinage sont entrés il y a quelques jours pour lui demander d'exposer à l'association ce que Robert Lacoste a appelé dans une note des « brochures fortement illustrées ». Ali a reçu quelques centaines de tracts qui sont entreposés aux quatre coins du local. Il ne voit pas pourquoi il aurait refusé. Il prend une brochure sur la pile et boit son verre à petites gorgées en la regardant. Elle a pour titre « Aspect véritable de la rébellion algérienne ». Il ne peut pas la lire, mais l'un des soldats lui a expliqué. Et elle est consacrée au massacre de Mélouza. Là-bas, sur les hauts plateaux au nord de Msila, le FLN a tué près de 400 villageois, accusés d'avoir soutenu le MNA de Messali Hadji, son concurrent direct dans la lutte pour l'indépendance. Les cadavres alignés ne paraissent pas plus gros que des brindilles sur les photographies. Ali tire sur sa cigarette, recrache la fumée, et dans l'association déserte, il aligne les questions. Et eux ? Pourquoi ? Eux, des traîtres ? Ils étaient indépendantistes avant vous. Comment auraient-ils pu vous trahir alors que vous n'existiez pas ? Pour eux aussi, vous avez une justification, un beau discours. Il fait résonner sa voix grave et tremblante. Et lui qui n'est jamais allé au théâtre, lui qui ne saurait même pas dire pourquoi les Français se pressent devant les portes de ces établissements, acquiert malgré tout au fil des vers d'anisette des maniérismes dans la tristesse ou dans la colère qui ressemblent à ceux de Madeleine Renaud, à ceux de Robert Hirsch ou d'André Falcon quand ils interprètent sur les planches les rois et les reines de tragédie. Le plus souvent, après qu'il a passé 2 ou 3 heures enfermé à l'association, la honte le rattrape et l'oblige à retourner à sa vie. Il vérifie le niveau d'alcool dans la bouteille, espérant toujours en avoir bu moins que ce qu'il découvre. Lorsqu'il se lève, le monde tangue un peu, mais rien qu'il ne puisse affronter. Il se lave le visage à grande eau et se rince la bouche. Dans la fenêtre, il attrape une nouvelle fois son reflet, contemple ébahi cette face de lune qui est la sienne et dont la graisse masque encore l'âge. Il remet debout une pile de tracts qui s'est effondrée, puis s'apprête à sortir. Il sait que les brochures sont de la propagande dont les Français se servent pour recruter des partisans, notamment chez les chefs de village. Ils en déploient les photos macabres imprimées en accordéon, puis prétendent avoir trouvé sur un de leurs prisonniers une liste noire du FLN contenant le nom de leur interlocuteur. « Ça sent le roussi pour toi, » disent-ils. « Tu ferais bien de placer tout ton village sous notre protection, où il t'arrivera la même chose qu'à Mélouza. » Souvent, ça marche. Après tout, on sait que les Français ont les moyens, se sont donné les moyens d'obtenir des informations des Fellagas qu'ils capturent. Celle-là doit être vraie. Ensuite, bien sûr, le chef de village découvre qu'une protection s'achète et que, comme dans n'importe quel film sur la mafia, son prix va croissant. Oui, Ali sait qu'il regarde un outil de propagande élaboré par la puissance coloniale. Il n'est pas stupide. Il n'est pas né de la dernière pluie. Mais il se trouve que la France et lui ont désormais un ennemi commun et que la propagande est un excellent combustible pour la colère. Dans l'arrière-boutique, Hamid et Annie construisent un château à base de conserves de tomates. Elle veut que ce soit Versailles, il veut que ce soit la maison d'un ogre. Le jeu dégénère rapidement en dispute. Annie est redoutable dès qu'on la contrarie. « Silence, les enfants !» crie Claude, avec une nervosité qu'ils ne lui connaissent pas. « On ne s'entend plus causer !» Annie fait s'écrouler le château plutôt que d'avoir à céder. Hamid boude longtemps, les yeux fixés sur les carreaux blancs et noirs. Elle le prend dans ses bras et l'embrasse. « Je t'aime, » dit-il. « Tu n'es qu'un bébé, » répond-elle. Ce soir-là, Hamid demande à son père ce qu'il pense de l'amour. En temps normal, Ali lui aurait dit qu'il n'avait pas le temps pour ses enfantillages, mais amolli par la nisette, il prend le temps d'y réfléchir. Le mariage, c'est un ordre, une structure. L'amour, c'est toujours le chaos, même dans la joie. Il n'y a rien d'étonnant à ce que les deux n'aillent pas de pair. Il n'y a rien d'étonnant à ce que l'on choisisse de construire sa famille, son foyer, sur une institution qui est durable, sur un contrat évident, plutôt que sur le sable mouvant des sentiments. « L'amour, c'est bien, oui, » dit Ali à son fils. « C'est bon pour le cœur, ça fait vérifier qu'il est là, mais c'est comme la saison d'été, ça passe. Et après, il fait froid. » Pourtant, il ne peut pas s'empêcher d'imaginer ce que ce serait de vivre avec une femme qu'il aimerait comme un adolescent, dont le sourire le paralyserait chaque fois, dont les yeux lui feraient perdre les mots. Michel, par exemple. C'est plaisant de rêver quelques secondes. Il ignore que pour ses enfants, et encore plus pour ses petits-enfants, ces quelques secondes de rêve qu'ils s'autorisent parfois deviendront la norme à partir de laquelle ils jaugeront leur vie sentimentale. Ils voudront que l'amour soit le cœur, la base du mariage, la raison qui pousse à fonder une famille, et ils se débattront en tentant d'articuler l'ordre du quotidien et la fulgurance de l'amour sans que l'un des deux n'étouffe ou ne détruise l'autre. Ce sera un combat permanent et souvent perdu, mais toujours recommencer. À la fin de l'année 1957, Yema accouche d'un nouveau petit garçon que son père décide d'appeler Akli. Il a de grands yeux bleu-noir qu'il garde fixement ouverts. Dès les premiers jours, sa santé vacillante inquiète ses parents. Il est malingre, respire mal et a souvent de la fièvre. C'est à cause du nom que tu lui as donné, reproche Yéma à son mari, autant lui jeter un sort. Ali ne veut pas croire à ces histoires de bonne femme. Il répond qu'à l'arrivée du printemps, le petit se portera mieux, comme tout le monde. C'est le froid qui lui fait mal et cette neige qui s'est mise à tomber et qui ralentit tout. Hamid attend avec impatience que son petit frère se rétablisse parce qu'il voudrait le montrer à Annie. « C'est un jeu passionnant, lui dira-t-il. C'est un jeu vivant. » Une nuit, alors que le silence de la montagne est encore épaissi par la neige qui ouate toutes les surfaces, endort les paysages, Akli se met à hurler dans son berceau et ne s'arrête plus. Toute la famille s'attroupe autour du petit corps secoué de cris. Son front est brûlant. Des plaques rouges sont apparues sur sa poitrine. Yéma tente de lui donner le sein, mais le bébé se détourne sans cesse. Elle le masse, force sa bouche d'un doigt trempé de miel, mais Akli brûle et crie sans discontinuer. « Il faudrait peut-être faire venir un médecin, » dit son père. Il ne prononce ces mots que pour les entendre, pour qu'une parole rationnelle résonne au milieu du tumulte. Il sait que c'est impossible. La neige a bloqué la route et il est impossible de descendre jusqu'à Palestro, comme d'en monter. Pendant que ses parents s'agitent autour de lui, le bébé crie comme s'il ne savait pas lui-même qu'il criait, comme si c'était quelque chose d'étranger qui sortait de lui. « Va chercher le cheikh !» ordonne Yéma à Ali. Pour qu'il nous raconte je ne sais quelle ânerie sur les djinns avant de faire des tours de passe-passe, pour qu'il sauve ton fils. Dès que l'aube jette quelques lueurs pâles sur la crête, Ali quitte la maison sur un âne. La voiture ne connaît pas la neige, elle paraît se cabrer et s'enfuir devant elle comme un animal pris de panique, et se rend jusqu'à la demeure du guérisseur. Celui-ci vit à l'écart des Meshta, dans une maison au toit rond, qui rappelle à Ali les tombes des saints sur lesquelles sa mère l'emmenait se recueillir quand il était enfant. Cette demeure aux allures de Kouba l'impressionne malgré lui. Il entre dans la bâtisse avec le même effroi respectueux que s'il avançait dans un cimetière. Il n'y a ni femme, ni enfant, ni serviteur pour l'accueillir. Le cheikh vit seul. Comme un ascète, disent ses partisans. Comme un pervers ou un alcoolique, disent ses ennemis. Il regarde entrer le visiteur de l'aube sans prononcer un mot. « Mon fils est malade, » dit Ali timidement en ôtant son couvre-chef couvert de neige. « Je ne suis pas médecin, » répond le cheikh avec beaucoup de douceur. « Je n'ai pas de médicaments. » Il hurle et tout le temps il hurle. « Ma femme... » tente d'expliquer Ali. « Elle pense que c'est un démon qu'il a dans le corps parce que je lui ai donné le nom d'un mort. » Le cheikh hésite, puis hoche la tête. « Je vais venir avec toi. » Il rassemble quelques affaires dans une grande besace de cuir et il murmure pour lui-même autant que pour Ali. « Si on écoute les femmes, le monde est rempli de djinns qui se glissent partout, comme si les démons n'avaient pas mieux à faire. C'est rare, en réalité très rare, qu'il y ait des rencontres entre eux et nous. Souvent, on vient me chercher et il n'y a pas de démons. Il faudrait juste prendre de l'aspirine ou arrêter l'alcool ou je ne sais pas, mais les gens sont trop déçus lorsque je leur dis. » Ils veulent à tout prix avoir des démons.
Lecture en liberté, Denis Flagel.
Alice Zénitaire, L'art de perdre, suite. Le trajet inverse est long. Sous le poids des deux hommes, la bête avance avec peine, son dos se creuse. Alice sent le corps de l'autre contre lui et l'âne les ballotte chaque fois que son sabot fatigué heurte une pierre. Quand ils arrivent à la maison, le soleil est un rond franc dans le ciel et la neige brille sous ses rayons comme une parure de mariée. Les hurlements d'Akli se sont faits plus faibles, enroués, douloureux. Mais le petit garçon continue cependant à les tirer de sa poitrine, bouche palpitante, yeux exorbités. De Chèque paraît satisfait en l'examinant. « Vous avez bien fait de venir me chercher, » dit-il aux parents. Yéma ne peut s'empêcher dans son dos de jeter à Ali un regard de triomphe. Le guérisseur fait d'abord rouler un œuf lentement sur le petit corps, en insistant sur les aisselles, l'aine et la gorge. Il demande ensuite à Hamid d'aller enterrer l'œuf au fond du jardin. Puis il sort de son sac plusieurs rubans de papier sur lesquels sont inscrits certains versets du Coran. En se balançant d'avant en arrière, il les chantonne plusieurs fois au-dessus de l'enfant qui hurle toujours. Après de longues minutes, il tend les rubans à Yéma. « Coulait dans l'ourlet de ses langes, » dit-il. Finalement, comme le nourrisson ne cesse pas de pleurer, le guérisseur fait brûler des herbes qui dégagent une fumée et une odeur lourde dans la pièce. Il passe dans la flamme le tranchant d'une pierre plate et à l'aide de celle-ci, il incise l'enfant au front, au bras et sur la poitrine en une série de fines coupures verticales. Akli s'était enfin, ses yeux noirs démesurés, se posent sur le guérisseur, deux lacs de nuit perdus dans sa petite figure fripée et couverte de sueur. « Là, là !» chuchote le tchèque. « C'est bien !» Ali le raccompagne sur son âne. À présent que l'urgence est passée, ils s'endorment presque le temps du trajet jusqu'à la petite maison ronde, leurs corps effondrés l'un sur l'autre. « Tu n'y croyais pas, n'est-ce pas ?» demande le cheikh, en attisant les braises du canoun. Ali, gêné, hausse les épaules. « Moi non plus, je n'y croirai pas, je suppose, » dit gentiment le guérisseur. « Si je n'étais pas né comme ça, capable de voir. » Sous les mouvements du tison, des étincelles jaillissent en craquant, et bientôt quelques flammes réapparaissent le long du bois carbonisé. Les deux hommes en approchent leurs mains engourdies avec un soupir de soulagement. « Je ne prétends pas avoir des pouvoirs, tu sais, » reprend le cheikh. « En réalité, je n'ai rien que la parole de Dieu, et ça, je l'ai apprise. Ce n'est pas un don. Mais je sais que les djinns rôdent parmi nous, et je sais que la bonne sourate peut les renvoyer au désert. » Est-ce qu'il y a une sourate pour tout ? Il y a 2 ans, j'ai vu venir chez moi une vieille femme dont le fils avait été torturé par l'armée. Elle m'a demandé une sourate qu'elle pourrait mettre sur sa maison et qui tiendrait les Français à l'écart. Les deux hommes se sourient. Bon, je n'ai rien non plus contre le FLN, avoue le tchèque. Pourtant, je commence à croire que ça me serait utile. C'est peut-être l'épuisement qui permet cette intimité entre les deux hommes, ou la chaleur qui suit les trajets dans la neige, ou le soulagement d'avoir entendu les cris d'Akli s'arrêter. Il parle simplement, franchement, dans la maison blanche et verte, en forme de Kouba. « Tu es menacé ?» demande Ali. « Leurs zoulémas ne nous supportent pas. Ils disent que nous avons perverti l'islam avec ce qu'ils appellent notre idolâtrie. Ils parlent au nom d'un islam pur. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Pour moi, la religion que je pratique est pure. Je passe ma journée à penser à Dieu. Je lui confie chaque seconde de ma vie. On ne peut rien vouloir de plus. Alors, c'est qu'ils veulent moins. Et moi, ça ne me va pas. » À son retour, Ali trouve Yema en train de bercer le nourrisson endormi. Elle a le visage mangé de cernes grisâtres, mais elle sourit à son mari. « Regarde comme il est calme !» Dans ses bras, Akli rêve et une bulle de bave se forme doucement sur ses lèvres minuscules. Roulé en boule sous la banquette, Hamid s'est lui aussi abandonné au sommeil. Il émet un ronflement très léger, comme un petit animal satisfait. Alors que le soleil monte rapidement dans le ciel, la maisonnée d'Ali, ignorant la lumière, commence la nuit dont elle vient d'être privée. « Quand tu dors, tu oublies tous tes soucis », a toujours dit Ali à ses fils, pour les obliger à aller se coucher. C'est une chance merveilleuse, et ça ne dure que quelques heures, alors profite. Quand il se réveille en milieu d'après-midi, hagard, perdu par le rythme que leur a imposé la fatigue, il découvre qu'Akli a cessé de respirer. L'enfant est froid, immobile, d'un bleu presque violet aux lèvres et aux extrémités des doigts. Comme des couvercles de pierre posés sur ses yeux noirs, ses paupières sont closes et raides. Et quand Naïma pense à cette scène, un vers appris il y a bien longtemps remonte dans sa mémoire. Nul ne réveillera cette nuit le dormeur. La neige fond. Minuscule bruit de cascade qui monte de partout invite à se pencher pour observer comment les flocons aux branches étoilées deviennent l'eau protéiforme fantomatique. Mais Ali reste droit entre les oliviers coiffés de blanc et de givre. Derrière lui, Hamid et Kader trottinent. Il leur a demandé de l'accompagner. Les garçons soufflent de la buée épaisse dans l'air froid et vif de l'hiver qui paraît donner à tous les éléments du paysage une forme plus précise que jamais. « Pourquoi on est là, Baba ?» demande Hamid. « Pourquoi, Baba ?» répète Kader. « Pour être ensemble, » répond Ali. « Entre hommes, face au malheur entre hommes. Tous les trois continuent à marcher en silence sur les champs hivernaux. Ali se retourne parfois vers ses deux fils aînés et il pense, sans oser leur dire mais en espérant qu'ils puissent le comprendre, « Regardez bien tout ce qui se trouve autour de vous. Fabriquez-vous des souvenirs de chaque branche, de chaque parcelle, car on ne sait pas ce qu'on va garder. Je voulais tout vous donner, mais je ne suis plus sûr de rien. Peut-être que nous serons tous morts demain. Peut-être que ces arbres brûleront avant que j'aie réalisé ce qui se passe. Ce qui est écrit nous est étranger, et le bonheur nous tombe dessus ou nous fuit sans que l'on sache comment ni pourquoi. » On ne saura jamais. Autant chercher les racines du brouillard. » C'est à partir de là qu'il n'y a plus de vignettes, plus d'images aux couleurs vives que l'âge a délavées jusqu'aux pastels qui rendent toute scène charmante. Elles sont remplacées par des morceaux tordus ressurgis des souvenirs de Hamid et retravaillés par des années de silence et de rêves hirsutes, éclats d'informations que lâche Ali au détour d'une phrase avant de répondre le contraire quand on l'interroge, bribes de récits que l'on dirait tirés de films de guerre sans que personne n'ait été là pour les vivre. Et entre ces poussières, comme une pâte, comme du plâtre, qui se glisserait dans les fentes comme les pièces d'argent que l'on fond sur la montagne pour servir de monture aux coraux, parfois gros comme la paume, il y a les recherches menées par Naïma plus de 60 ans après le départ d'Algérie qui tentent de donner une forme, un ordre à ce qui n'en a pas, n'en a peut-être jamais eu. En juin 58, le général de Gaulle arrive au pouvoir. Dans la caserne de Palestro, c'est la liesse. De Gaulle, c'est le sauveur de la France, le père de l'armée. De Gaulle, c'est De Gaulle, merde. Lui saura quoi faire, et puis internationalement, ça a de la gueule. Aux terrasses des cafés, les soldats lèvent leurs verres dans un cri « Au général, à l'Algérie française !» Derrière son comptoir, l'oreille collée au poste de radio, Claude est plus hésitant. Il dit qu'il nous a compris. D'accord. Mais c'est qui, nous ? Depuis la mort de leur fils, Yema refuse qu'Ali la touche. Il dort de plus en plus souvent seul dans l'appartement de Palestro. Ces dernières années, le logement ne servait à rien d'autre qu'à être mentionné dans les conversations pour illustrer la réussite d'Ali. Il sent le renfermé et la poussière. Parfois, Ali préfère rester sur une chaise à l'association en attendant que le jour se lève. Vue peint sur les rochers de la petite route qui serpente jusqu'à Sbarbar, l'armée française restera et vous protégera toujours. Pourquoi tu rentres si tard à la maison ? Demande Annie à Michel. « Je fréquente quelqu'un, un militaire. Je n'aurais jamais cru que je me mettrais moi aussi à cette mode du militaire. » Sur les étals du marché couverts, le parfum qu'exhalent fruits, fleurs et légumes frappés, caressés par la chaleur du matin qui monte est si prenant qu'il est impossible de dire s'il est délicieux ou ignoble. On pourrait enfoncer un doigt jusqu'au cœur des tomates en essayant de les tâter. Au café des Halles, un homme lit un article sur le plan de Constantine annoncé par le général le 3 octobre. C'est une longue liste de chiffres et de promesses. Construction de logements, redistribution de terres, industrialisation et création de dizaines de milliers d'emplois, exploitation du pétrole et du gaz découverts dans le Sahara. « Il n'investirait jamais autant s'il voulait partir », commente l'homme. « Ils vont s'accrocher. » Voilà donc pour ce soir la suite de ce roman de Alice Zénitaire, L'art de perdre, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.